La science CQFD, Natacha Triou.
On poursuit notre feuilleton sur les nouvelles explorations et ceux qui mettent leur corps au service de la science. Aujourd'hui, troisième épisode, pourquoi explorer les mondes polaires ? L'Antarctique est le plus grand désert du monde. Les seuls humains qui y vivent se nichent dans des bases scientifiques. Ce continent de l'extrême, où les températures peuvent chuter en dessous des moins 80 degrés lors des nuits polaires, est aussi l'un des avant-postes de la menace climatique. Des territoires sentinelles où sont étudiées la chimie de l'atmosphère, la glaciologie et tout le système Terre. Car les pôles sont à la fois les témoins et les acteurs de l'histoire du climat de notre planète. Celles et ceux qui s'engagent dans l'exploration polaire doivent affronter l'isolement, le froid et l'accélération de la fonte des calottes glaciaires. Nouvelles explorations, la science à hauteur de pôle. Christophe Leroy Dos Santos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de recherche en climatologie au LSCE, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, CEA, CNRS, Université Paris-Saclay. Et nous sommes en ligne également avec Laurence de la Ferrière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes explorateur et auteur, notamment de Antarctique, au cœur du continent blanc, aux éditions Gallimard, paru en 2020. Et surtout, vous êtes la première et la seule femme au monde à avoir traversé intégralement l'Antarctique en solitaire. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Merci à vous qui nous écoutez d'être là toujours en rendez-vous à toute heure en podcast sur notre fil podcast de l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreux liens pour compléter votre écoute. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quelles sont les deux bases françaises situées en Antarctique? Quelle est l'importance scientifique de ces missions polaires et comment affronter les conditions extrêmes du continent blanc? Nous avons une heure pour répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, on commence avec notre archive du jour. Nous sommes en 1969.
Pour la première fois, les techniciens des expéditions antarctiques soviétiques et des expéditions polaires françaises viennent de travailler ensemble à la découverte scientifique de cet étrange univers. Pour la première fois, une caméra les a vus vivre, travailler, se battre contre le vent heure par heure en une hallucinante marche de 1500 km vers le point le plus froid du monde. But de leur opération, étudier la façon dont la glace s'entasse et se déplace sur le continent antarctique.
Vous savez que dans le dernier stade glaciaire, il y a mettons 30 000 ans, eh bien, le niveau des mers était d'environ 100 mètres inférieur au niveau actuel, parce que cette masse d'eau a été stockée dans les calottes arctiques et antarctiques. Eh bien, nous, on voudrait savoir ce qui se passe actuellement. Si on pouvait faire, dans un temps relativement court, des études de déformation de la glace, on peut en déduire la variation de masse dans la zone où on fait ces études de déformation. Pour vous concrétiser ça, si vous voulez, vous pouvez imaginer qu'au fond, tout ça, c'est une motte de beurre. Eh bien, quand on ajoute du beurre, ce beurre, il ne va pas s'accumuler continuellement, il va s'écouler. La glace, c'est à peu près ça, tout à fait analogiquement. Alors, si, ça veut dire simplement que l'ensemble de cette glace, elle bouge. Elle ne bouge pas vite, pas beaucoup, mais elle bouge, et beaucoup plus que les roches. Alors, si par exemple, j'installais ou je dessinais à la surface, à l'intérieur de l'Antarctique, un cercle, au bout d'un certain temps, ce cercle serait déformé en une ellipse. Les contraintes étaient régulières, elles seraient déformées. Alors si je peux mesurer cette déformation dans un temps relativement court, je pourrais en déduire par le calcul la variation de masse.
La voix du professeur Jean-Claude Breyer dans l'émission Panorama en 1969 sur la ORTF. Christophe Leroy Dos Santos, voilà, l'exploration polaire, c'est d'abord des enjeux scientifiques, mieux comprendre cette motte de beurre.
Oui, tout à fait. En tout cas, moi qui suis climatologue et avec une grosse composante de glaciologie, oui, on s'intéresse à l'écoulement, comme il le dit si bien, de cette masse de glace sur le continent qui n'est pas du tout figée. Et ça va nous faire permettre de comprendre derrière, quand on analyse les carottes de glace, justement, quel âge, entre autres, quel âge à la glace qu'on regarde.
Votre réaction, vous aussi, à Laurence de la Ferrière, à l'écoute de cette archive?
Moi, je trouve ça extrêmement touchant et c'est incroyable. Je veux dire, ils avaient déjà des connaissances vraiment précises et importantes quant à l'avenir de l'étude de l'Antarctique.
Alors, dans cette archive, on entendait parler, voilà, de cet étrange univers. Laurence de la Ferrière, est-ce que c'est aussi comme ça que vous regardez le continent blanc? Comme un étrange univers.
Oui, c'est un univers qui est complètement fascinant, qui n'est pas fait pour l'être humain. Il n'y a pas de vie possible au cœur du continent. Il y a des animaux sur la côte, mais sur la grosse boule orientale, il n'y a pas de vie possible. Il fait trop froid, l'épaisseur de glace est trop importante, il n'y a pas la chaîne alimentaire. Et lorsqu'on a la chance, le privilège de poser les pieds là où personne ne les a jamais posés, en fait, vous élaborez une relation tout à fait particulière avec l'environnement. Et tout ce qu'on peut considérer comme étant des ennemis à la base, comme le froid qui est, comme vous l'avez dit, extrêmement intense, parfois les vents très forts, les problèmes de crevasses, en fait, vous finissez par en faire des alliés et vous finissez par établir une sorte d'intimité entre cet homme qui, ou cette femme qui n'a pas de raison d'être là où il est et la nature. Et ensemble, on arrive justement à tracer un chemin. Et pour moi, c'est l'illustration ultime de l'exploration.
C'est un sentiment d'intimité que vous avez aussi ressenti, Christophe Leroy dos Santos ?
Oui, mais d'intimité forcée. C'est marrant, j'ai pas senti cette notion d'intimité au sens où on finissait par travailler ensemble. Enfin, c'est pas exactement ce qui était dit, mais voilà. C'était un moment où effectivement, au bout d'un certain temps, c'est nous et l'Antarctique. Enfin, disons nous et le froid, nous et les conditions extrêmes. On peut plus en sortir. Bon, pour ma part, qui ai fait un hivernage là-bas. Et d'ailleurs, Laurence aussi, je crois. Et donc, oui, une intimité, parce que quelque chose qui existe que là-bas, donc forcément, qui n'est partagé que par nous et le continent, et pour ma part, pas d'animaux, parce que sur le plateau, mais oui, tout à fait.
On va parler, en effet, des conditions d'hivernage dans les différentes stations françaises, mais d'abord, Laurence de la Ferrière, pour bien comprendre cette relation que vous avez vécue avec justement ce grand désert blanc, pour rappeler, hein, vous êtes devenue donc la première française à atteindre le pôle sud en 1997, hein, c'est 1400 km en 58 jours. On peut peut-être rappeler les conditions dans lesquelles vous étiez.
Alors j'avais un traîneau qui à l'époque, donc c'est ça date hein, maintenant, qui était très lourd, j'avais fait avec les moyens du bord, et pour moi ça a été une découverte extrêmement difficile et violente. Bon, je pèse en gros 50 kilos, mon traîneau en faisait à peu près 100 kilos, et du coup c'était quelque chose, il fallait gérer le poids du traîneau et des conditions que je n'avais pas, enfin je m'étais entraînée en Arctique en traversant le Groenland, le Spitzberg ou la Sibérie, mais encore une fois, l'Antarctique, c'est quelque chose de très différent. Et pour revenir sur cette idée de fascination, et je comprends vraiment ce que Christophe dit, parce que quand on est dans une base, on est au sein d'un collectif. Et du coup, le fait de tenir compte de l'autre empêche en fait cette relation, cette intimité avec la nature dont je parle. Le fait d'être seul, en fait, à un moment donné, vous devenez comme un animal de l'Antarctique et vous arrivez à comprendre, à développer des sixièmes sens, des septièmes sens, et vous arrivez à décrypter ce que la nature vous propose. Et au lieu d'être effrayant, finalement, il y a une sorte de connivence qui s'instaure. Mais pour ça, il faut cette solitude, parce qu'en fait, elle est en cohérence avec l'idée que le continent antarctique, en fait, c'est le plus grand désert du monde. Donc, il faut être seul dans le plus grand désert du monde pour ressentir ce que j'essaye de partager avec vous.
Laurence de la Ferrière, c'était quoi votre sixième sens sur place?
Ben, mon sixième sens, par exemple, c'est quand il y avait beaucoup de whiteout, donc absolument aucune visibilité. Et au début, en particulier quand j'utilisais les voiles, j'avais l'impression de me précipiter contre un mur blanc et je n'avais plus du tout le sens de l'équilibre qui était nécessaire pour progresser correctement. Et il a fallu que j'entende, au-delà de ce que j'avais appris, que je regarde, que je vois plutôt, au-delà de tous les repères que j'avais auparavant, pour trouver un nouvel équilibre. Et finalement, c'est ça ce que j'appelle ce nouveau sens, c'est que ce que j'ai vu était totalement indispensable dans la situation, et je me suis libérée de tout ce que j'avais appris auparavant, parce que ça risquait de m'encombrer et d'interférer sur tout ce que je devais apprendre sur le terrain.
Sur le terrain, c'est quand même 3000 km parcourus aussi fin 99 en 2000, où à ce moment-là, vous dépassez toutes vos limites, vous devenez donc la première femme au monde à traverser l'Antarctique en solitaire. Vous venez de parler de ce gros traîneau trop lourd pour vous, mais vous avez mis au point une astuce pour pouvoir avancer avec lui.
Bah, l'astuce, alors déjà pour cette deuxième expédition, donc qui représente à peu près 3000 km, donc qui est le départ, le pôle sud, pour aller tout à fait à l'opposé, donc à la base du Mont d'Urville dont Christophe va parler, j'ai utilisé des voiles. On a mis au point des voiles de traction qui aujourd'hui sont à l'origine des kitesurf pour qu'à un moment donné, lorsque le vent est favorable, je puisse utiliser la force du vent pour m'aider à la traction du traîneau, parce que cette fois, il faisait 150 kilos, et que je puisse parcourir un nombre de kilomètres beaucoup plus important que juste en traînant mon traîneau avec des pots de phoque sous les skis.
Voilà, comment l'Antarctique fait la joie des amoureux des sports de glisse aujourd'hui pour tous les kitesurfers. Alors, comment on lutte contre le froid dans le Grand Sud, Laurence de la Ferrière?
Ben justement, vous dites le mot qu'il ne faut pas. On ne lutte pas contre.
On le subit.
On fait avec. C'est ça aussi l'essence qu'on va développer. C'est-à-dire qu'au début, vous avez l'impression que le froid est un ennemi mortel. Ça l'est. Je veux dire, on est obligé de considérer le froid comme quelque chose de très dangereux. Mais à partir du moment où vous comprenez que le secret, en fait, c'est de trouver un équilibre entre le froid extérieur et la chaleur que votre corps va produire avec l'utilisation de vos muscles, cet équilibre, il est essentiel parce qu'il ne faut pas transpirer, parce que l'humidité crée un pont thermique qui va encore renforcer la sensation du froid et le danger. Et donc, quand vous comprenez ça, en fait, vous êtes à l'écoute du sens du vent, de la force, de vous-même, et vous arrivez petit à petit à considérer le froid non pas comme un ennemi, mais comme quelque chose qu'il faut comprendre et qui va vous permettre de développer une capacité, des compétences en fait dont vous ignorez totalement l'existence auparavant, mais qui va vous permettre de gérer ça. Et c'est pareil pour tout.
Mais par rapport à ce froid, tout de même ennemi, puisque dans votre documentaire Seul en Antarctique, un exploit dans l'enfer du désert blanc, en 2000, on voit que vos pieds commencent à geler.
Oui, parce qu'en fait, j'avais fait fabriquer des chaussures qui devaient être un compromis entre la souplesse nécessaire, comme les Esquimaux, hein, j'utilise des chaussures très souples et qui est pour gérer le froid, et en même temps une rigidité indispensable pour pouvoir tenir mon cap quand j'allais utiliser les voiles. Donc, pour appuyer les quarts de mes skis sur la neige, il fallait que je puisse avoir cette rigidité. Et en fait, ce compromis, parce que bon, c'était la première fois hein, qu'on essayait de faire ce genre de choses, il n'était pas parfait. Et au début, quand je suis partie du pôle sud, il faisait moins 55. J'avais le vent en face. Je ne pouvais pas utiliser les voiles. Donc, je suis restée très statique en tractant mon traîneau avec les pots de phoque. Et en fait, le fait de passer rapide a généré en fait ces gelures dès le début, voilà, qui ont été assez graves, mais là encore je pense que la force de l'esprit fait que parfois on arrive à passer au-delà et à éviter le pire.
Voilà, puis un sac dans lequel vous rangez vos batteries au lithium pour coudre des chaussettes, ouais, supplémentaires, c'est ce autre astuce que l'on voit. Autre astuce sur le terrain. Alors on va continuer de parler de terrain, de savoir qui se fabrique sur ce terrain-là, et on va continuer de parler de gélure. Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture, on poursuit notre semaine sur les nouvelles explorations. Aujourd'hui, le continent froid. Un terrain à explorer, un laboratoire de recherche. On en parle avec Christophe Leroy dos Santos et Laurence de la Ferrière. Parlons à présent des bases françaises. On peut parler de Dumont d'Urville, la première station historique française, ouverte en 1956, du nom du premier Français à avoir posé le pied en Antarctique. Elle est située en Terre Adélie, une région de l'Antarctique de l'Est. Christophe Leroy dos Santos, on peut peut-être là aussi dresser et redécrire le paysage.
C'est une très belle station parce qu'elle est quand même située, ce qui serait interdit aujourd'hui. Elle a quand même été construite au milieu de deux manchotières, à savoir la plus grande manchotière, il me semble, de Manchot Empereur et une des plus grandes manchotières de Manchot Adélie. Donc les bâtiments sont vraiment encerclés par des manchots qui tous les ans viennent récupérer leur nid à l'endroit exact où ils l'ont laissé l'année d'avant. qui s'assoit sur la neige, attend qu'elle fonde, et là, il retrouve le tas de cailloux. Bref, donc c'est ça, donc c'est un poulailler géant, ça sent vraiment le poulailler, ça sent vraiment la poule. Et on a la côte, on a des icebergs qui se détachent, on a derrière le continent. En fait, on est sur une île, hein. On est sur une île, on peut avoir l'impression qu'on est sur le continent, mais comme il y a de la glace qui rejoint le continent et l'île, voilà, on a l'impression d'être dessus. Mais donc, on est sur une île, donc derrière, on a le continent, devant, on a la mer, on a de la banquise, on a des animaux, c'est majestueux.
Laurence de la Ferrière, vous, en 2008-2010, vous avez aussi dirigé la station, cette base, vous avez pris conscience également à ce moment-là de l'importance des programmes scientifiques, mais on peut dire qu'en tout cas, dans cette base-là, on a un climat relativement clément.
Entre guillemets, bon alors je rejoins complètement la description de Christophe et je rajouterai dans cette description, au début de l'hiver, lorsqu'on voit arriver à l'horizon les empereurs, les manchots empereurs qui arrivent les uns derrière les autres avec un éclairage orange et rosé, et ça fait partie des moments qui restent définitivement gravés dans mon esprit. Alors, concernant votre question, elle est plus clémente concernant les températures et l'altitude, évidemment. Mais par contre, les vents catabatiques, la vitesse des vents peuvent dépasser les 300 km/h. Et lorsque vous êtes dans ces moments, je peux vous dire que vous n'avez pas le sentiment d'être dans quelque chose de très confortable. Donc, c'est extrême d'une manière différente quand même.
Christophe Leroy de Santos.
Oui, tout à fait, je suis d'accord, parce qu'en plus, moi, j'ai eu la chance de visiter, si je puis dire, ces deux bases. Donc, j'ai été deux fois à Dumont-d'Urville et j'ai surtout hiverné pendant 12 mois à Concordia, donc à 3000 mètres d'altitude, mais avec une pression atmosphérique qui serait l'équivalent du Mont Blanc. Et donc là, c'est dans l'ensemble beaucoup plus froid, beaucoup plus dur pour plein de raisons qu'on abordera peut-être au niveau technique. Mais on n'a pas le vent. Et le vent, c'est un sacré casse-tête à Dumont-d'Urville.
Comment, Laurence de la Ferrière, comment on lutte ? Enfin, je sais que vous allez dire, on ne lutte pas, mais comment on fait avec le vent ?
Alors, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Quand j'ai traversé le continent, quand j'ai pu utiliser les voiles, en fait, le vent a gonflé ma voile. Et du coup, j'allais avec le vent et je ne ressentis plus du tout le vent de la même manière. Bon, par contre, à la base du Mont-d'Urville, à ce moment-là, c'est très bruyant, très violent, et donc il faut prendre un certain nombre de mesures pour assurer sa sécurité. Il y a parfois en plus la fabrication d'espèces de congères qui finissent par s'entasser devant les portes d'entrée des différents bâtiments qui constituent la base. Donc c'est vraiment une gestion très particulière et donc qui existe pendant l'hiver, hein, pendant les 9 mois d'isolement total de la base. C'est relativement compliqué.
On a en effet évoqué la station Concordia qui est habitée en continu depuis 2005. C'est là, Christophe Leroy dos Santos, c'est là où vous avez fait votre premier hivernage en 2013, il me semble.
Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. Je vous voyais froncer les sourcils. Non, non. Alors avant de parler des conditions, pareil, qui là sont beaucoup plus difficiles qu'à la base du Mont-d'Urville, on peut là encore, hein, vous pouvez nous servir, être nos yeux, à quoi ça ressemble là-bas sur place.
Vraiment, la première image que j'ai, qui me vient en tête, c'est la première image que j'ai eue, moi, en arrivant, quand 80% des gens qui arrivent à Concordia, à part ceux qui viennent en ski, y arrivent en avion. Et donc, du coup, on voit au loin, enfin, on traverse pendant 2-3 heures du blanc, et à un moment, on voit un petit point noir au bout, puis en fait, on comprend que c'est pas juste nos yeux. Ce point noir qui se dessine, c'est en fait une station. Une station qui se dessine au milieu de rien, donc c'est vraiment très impressionnant de voir ce truc construit au milieu de rien, c'est tout à fait lunaire. Et donc c'est ça, c'est deux tours très contemporaines par rapport à Dumont-d'Urville, où c'est vraiment un entassement de containers, donc ça fait très moderne, ça fait très, la station est sur pilotis, donc on dirait quasiment un vaisseau spatial qui vient d'alunir. Et donc ça fait la sensation d'être vraiment sur notre planète.
Et la vie là-bas, c'est aussi sur une autre planète, c'est plus éprouvant.
J'ai pas fait d'hivernage à Dumont-d'Urville, mais bon, j'ai quand même côtoyé beaucoup de gens qui l'ont fait, et on a pu échanger nos histoires, et des histoires avec d'autres hivernants de Concordia aussi, d'autres années après moi, etc. Il semble quand même que c'est plus difficile parce qu'en fait, Dumont-d'Urville, il y a des paysages qui changent tout le temps du fait de la banquise, du fait des animaux, il y a quand même des choses à voir. À Concordia, c'est un peu plus méditatif. On se retrouve vraiment sur du blanc, du noir ou du blanc, du bleu. Par contre, on a le plus beau ciel du monde, je pense, à peu de choses près. Donc, ce qui est quand même un sacré cadeau. Des aurores incroyables, voilà. Et donc ça, ça se mérite parce que ça, il faut faire un hivernage pour le voir. Mais c'est éprouvant parce que oui, l'altitude, on respire mal, on perd, tout le monde perd 10 kilos en moyenne sur l'hivernage. On fait des apnées du sommeil beaucoup plus prononcées. Donc il y a beaucoup de gens qui font des insomnies pendant presque un an. Enfin, il y a quand même beaucoup de. En fait, c'est essentiellement lié à l'altitude et à l'humidité. Enfin, au fait que ce soit très sec, quoi.
On respire mal et on dort mal.
Oui, exactement.
Avec l'épuisement psychologique qui va avec, alors j'imagine.
C'est ça. Là encore, je pense que c'est deux expériences différentes et donc différentes pas. Mais à Concordia, on est une équipe un peu plus restreinte qu'à Dumont-d'Urville. C'est du simple au double. En gros, c'est 12-13 personnes à Concordia et environ 25 à Dumont-d'Urville. Donc, ça fait un équipage plus restreint, donc moins de gens pour, je sais pas, pour faire la fête quand il faut faire la fête ou voilà, pour se changer les idées. Voilà, on est tout de suite, tout le temps avec les mêmes personnes, ce qui peut être très bien. Ce qui rend, à Dumont-d'Urville, je suis sûr que c'est le cas aussi, mais ce qui rend les choses très, 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 très intenses, un peu le moindre pépin devient énorme. Et le moindre fait amusant devient exceptionnellement génial.
Laurence de la Ferrière, vous aussi, vous avez côtoyé ces espaces-là et cet environnement-là.
Alors, Concordia, j'y suis passée. Donc, j'ai passé la dernière journée de 1999 au passage à l'an 2000. Donc, c'était assez exceptionnel. Ce n'était pas du tout calculé. Mais il se trouve que voilà, j'ai pu arriver à la base à ce moment-là. Mais à ce moment-là, les bases, c'était juste des tentes. Elles n'étaient pas encore construites. Hein. Je crois que vous avez dit qu'elle avait fini d'être construite en 2005-2006. Voilà. Mais c'est vrai que, honnêtement, c'est un autre monde. Moi, je n'ai pas hiverné à Concordia. Mais l'altitude, alors, fait beaucoup. C'est compliqué. Je comprends très bien ce que dit Christophe. Et puis, quand même, à Dumont-d'Urville, il y a cette vie qui est omniprésente. Il y a les manchots, il y a, en fonction des saisons, après, il y a les phoques qui mettent bas, après, il y a les oiseaux. Et donc, ça, c'est quand même des choses qui, psychologiquement, apportent une dimension quand même très, très sympa.
Christophe Leroy de Santos, vous avez donc fait un hivernage là-bas. C'était pour mettre en service un télescope dans cette station Concordia. Et vous avez aussi fait des expériences qui montrent toute la difficulté à gérer le froid quand on fait surtout en plus des installations extérieures.
Oui, c'est ma petite anecdote qui résume assez bien la difficulté que ça peut être de travailler à moins 50, moins 70. Donc ce télescope, il fallait le calibrer. Je suis arrivé juste pour le monter. C'est-à-dire que ça faisait 10 ans qu'il était en projet, en laboratoire. Il venait d'arriver en fait, pas le télescope, mais les instruments qui arrivaient sur le télescope venaient d'arriver sur le continent. Donc il fallait qu'on aligne tout ça, qu'on mette tout ça en place. C'était donc mon travail. Et j'étais pas tout seul. On était 2 pendant l'hivernage et 5 pendant la saison d'été. C'est un gros projet. Et il a fallu installer un spot en haut d'une tour météo qu'on appelle la tour américaine. En fait, l'idée, c'était de faire une étoile artificielle pour calibrer ce télescope. Et là, il a fallu donc monter un spot par moins 70. Bah déjà, rien que monter cette tour et ses 50 mètres, en fait, ça prend une bonne demi-heure. On arrive, on est épuisé. Et là, il faut sortir, dérouler les câbles qu'on avait dans la doudoune, tout ça. Sauf que bah voilà, il fait moins 60. Puis en haut de la tour, il y a du vent. Donc là, on a moins 60 plus le vent. Donc il fait vraiment très froid. Là, on déroule le câble. Si on ne déroule pas assez vite, en fait, il gèle. Donc on peut plus le dérouler parce que sinon, il casse. Pour ensuite fixer tout ça, bah faut utiliser ses mains. Vraiment ses mains. Donc on retire ses gants. On se retrouve avec ses gants de soie. Et là, on a vraiment peut-être 5 minutes d'espérance de vie pour ses doigts si on veut les garder. Et donc on a 5 minutes pour le faire. Et nous, bah typiquement, on était en train de fixer notre truc, voilà, le mettre bien en face du télescope, etc. Et puis bah patatras, un tournevis est tombé. Nous l'avons regardé, on distinguait évidemment pas, mais on a juste compris qu'on allait rentrer, se mettre au chaud et recommencer le lendemain, parce qu'il était impossible, parce qu'en tout, entre le moment où on était sorti de la base et le moment où on est arrivé de la tour, et le moment où on était redescendu, c'était passé presque 2 heures, pendant lesquelles on avait dû dépenser, je sais pas moi, 1000 kilocalories, enfin c'est énorme, donc on est rentré se reposer, on a réfléchi au plan d'action pour le lendemain.
Maintenant, vous êtes plutôt spécialisé du côté de la climatologie. On va voir comment justement la reconstitution du climat des passés joue un rôle majeur dans les travaux actuels du GIEC sur les changements climatiques à l'échelle planétaire. Et on va voir aussi dans quelle mesure l'Antarctique se fait le témoin des bouleversements de notre planète. Restez avec nous. Cold de The Cure en direct sur France Culture, car nous parlons de l'exploration du continent froid de l'Antarctique avec nos deux invités du jour. Christophe Leroy dos Santos, ingénieur de recherche en climatologie au LSCE, et Laurence de la Ferrière, explorateur, auteur et première femme et seule femme au monde à avoir traversé intégralement l'Antarctique en solitaire. On vient de parler des défis physiques que représente ce continent blanc. Parlons à présent des défis scientifiques qui se jouent sur place avec vous, Christophe Leroy dos Santos. On peut imaginer que là-bas, le plus important, c'est la glaciologie, mais en fait, pas seulement.
Ben, c'est évidemment un territoire un peu privilégié pour certaines observations, du fait d'être un continent, quand même, malgré les explorations qui s'enchaînent, entre guillemets, vierge. Donc, pour tout ce qui va être chimie de l'atmosphère, par exemple, c'est vraiment pas mon domaine, mais ça a cette particularité de pas être biaisé par d'autres sources de contamination quand on veut s'atteler à regarder quelques phénomènes dans la troposphère ou quoi. Ensuite, oui, il va y avoir de l'astro, donc, de la détection d'exoplanètes, de la détection de neutrinos, va y avoir des météorites. On essaie d'y trouver les micrométéorites. Pareil, comme il y a peu de contamination d'autres choses, en faisant fondre de la glace, statistiquement, on est sûr de trouver des micrométéorites. Et ensuite, voilà, il y a quand même tout un volet climatique qui est très important. Il y a eu la couche d'ozone à un moment, et puis sur nous, en ce moment, évidemment, l'aspect climat lié au réchauffement climatique, donc au système climatique, atmosphérique et océanique qu'on cherche à comprendre.
L'astronomie, d'ailleurs, il paraît que c'est le site terrestre peut-être le plus approprié pour la mise en œuvre de certains types de télescopes.
Ouais, c'était pour ça. En fait, c'était un peu ça l'objectif de ma mission en 2012, c'était de prouver à quel point c'était super. Et ce l'est super. Mais le problème, c'est que, contrairement à Atacama, où on peut quand même construire des routes et s'y rendre facilement toute l'année, un télescope aujourd'hui, un grand télescope, c'est facilement un crew de 10-15 personnes, au moins quasiment dédiées à ça tout le temps, toute l'année, sans compter tous les extérieurs qui vont intervenir. Alors qu'on peut pas se permettre d'avoir ça en Antarctique, et tout coûte très cher. Le moindre boulon à amener s'il y a un truc qui casse. Enfin, bref, c'est très compliqué en maintenant, je pense.
Voilà. Laurence de la Ferrière, vous qui avez aussi été et qui avait été qui a dirigé la station du Mont-d'Urville, on voit que c'est un campus scientifique avec une cinquantaine d'installations et vous avez pu tâter là-bas sur le terrain l'importance des programmes scientifiques.
Oui, alors moi je vais m'autoriser encore moins que Christophe à parler des programmes scientifiques, mais effectivement, alors donc il y a des études de biologie, il y a des études de la vie sous-marine sous la glace, il y a les études de, il y a le LIDAR, donc étude du trou d'ozone, il y a la sismologie, donc il y a énormément de choses, et c'est vrai que les programmes scientifiques qui sont menés à Dumont-d'Urville sont différents de ceux qui sont menés à Concordia, puisque Concordia est au sommet d'un dôme et qu'on peut faire des carottages qui descendent extrêmement profondément qu'on ne peut pas faire à Dumont-d'Urville. Et il faut aussi dire que je pense que les Français, sans faire cocorico, produisent des informations qui sont sur le plan international de la plus grande importance.
Là, vous venez de formuler un mot-clé qui est celui de carottage. Christophe Leroy dos Santos, en effet, la station Concordia, c'est là où on peut extraire les échantillons les plus anciens de notre planète, enfin de neige. On peut remonter jusqu'à 800 000 ans en arrière.
Alors, 800 000 ans, c'est le record précédent, mais qui a été dépassé il y a 6 mois de ça. Et en fait, non, pour être plus exact, on peut retrouver de la glace ailleurs qu'à Concordia, qui peut avoir 1, 2, 3 millions d'années. Par exemple, sur la côte, on a des morceaux de glace, on les identifie. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas issus d'un échantillon continu. Là, c'est l'avantage d'un site comme Concordia, c'est qu'il permet d'avoir de la glace qui a 0 ans, de maintenant, très contemporaine, et de la glace de 800 000 ans, et toute la glace qui est entre les deux. Donc on peut avoir les enchaînements de glaciation, des glaciations, on peut l'étudier. Donc 800 000 ans, c'est ce qu'on avait jusqu'à il y a 6 mois, et en fait, donc le programme en question, c'était EPICA, qui avait permis ce forage-là, un programme international. Et là, aujourd'hui, il y a un programme international qui s'appelle Beyond EPICA, qui a été successful. Mince. Qui a réussi.
Un succès.
Ouais, qui a été un succès. Merci, pardon. Qui a été un succès, puisqu'il a réussi, dans un temps presque record. Enfin, bref, en 3 saisons, à forer une carotte de glace de 3,2 km. Donc, à peine plus, même peut-être moins, je sais plus que EPICA. Mais on est à peu près sûr. Là, les analyses plus poussées sont en cours, mais on est sûr qu'on a au moins atteint 1,2 million d'années en arrière. Donc d'archives climatiques continues. C'est pour ça que c'est exceptionnel et on sait d'un point de vue climat de la Terre qu'il y a eu un changement dans le cycle climatique de glaciation-déglaciation, qui est maintenant entre guillemets bien connu, enfin dont on parle souvent quand on parle du réchauffement climatique, qui est bien connu depuis 800 000 ans, un cycle qui est basé sur une période d'environ 100 000 ans, donc tous les 100 000 ans il y a une déglaciation. On est en ce moment dans une période de déglaciation, sinon on ne serait pas habillé comme ça. Et pendant presque 90 000 ans, il y a la période de glaciation. Et en fait, on sait qu'il y a un million d'années, ça a changé. C'est-à-dire que jusqu'à il y a un million d'années, c'était plutôt une période de 40 000 ans, ces cycles-là, glaciaire-interglaciaire. Et donc, il était clé pour tous les climatologues qui s'intéressent au climat du passé, d'avoir une archive continue de maintenant jusqu'à 1,2 million, 1,3 million, 1,5 million, soyons fous. On va voir, pour pouvoir voir le passage d'une période de 40 000 ans à 100 000 ans de glaciation-déglaciation.
Et pourquoi c'est crucial aussi de connaître si précisément le climat du passé pour pouvoir projeter celui de demain ?
Parce que en fait, typiquement, voilà, on dit toujours « ouais, mais il a déjà fait plus chaud, ouais hein. ». Oui, soit, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est il a fait plus chaud, mais avec quel niveau de CO2 ? Ce niveau de CO2 dans l'atmosphère, il est arrivé en combien de temps dans l'atmosphère ? Il a mis combien de temps à être injecté par des éruptions volcaniques et divers mécanismes ? Et en gros, on a besoin de voir ce qui s'est passé dans le passé pour estimer, entre autres, la réponse que va être celle de notre système à une quantité de CO2 qui, elle, pour le coup, n'a jamais été aussi forte depuis au moins plus d'un million d'années, quoi.
Oui, en effet, ces échantillons-là et ces carottages nous permettent de pouvoir dire ceci, entre autres. Laurence de la Ferrière, vous, votre dernière expédition, vous êtes partie la dernière fois en 2019 en Antarctique pour montrer l'évolution du climat en Antarctique. Quelle a été aussi votre réaction sur le terrain ?
Oui, alors, moi, c'était pas seulement l'évolution du climat, c'était aussi la compréhension des activités des bases en fonction des différentes nationalités. Donc, on est parti avec un catamaran à voile, ce qui est assez exceptionnel pour aller en péninsule. Et alors, déjà, la première chose, c'est qu'on a pu aborder les côtes sans trop de problèmes. Alors que normalement, il y aurait dû y avoir, enfin, il y a une dizaine, vingtaine d'années, beaucoup plus de glace. Là, honnêtement, il y a même des moments où, aux abords de la péninsule, on était en t-shirt sans aucun problème. On a fait du ski sur des sommets environnants. Donc ça, déjà, ça montre que les conditions ne sont pas les mêmes qu'auparavant. Et puis, c'était important aussi de savoir, donc au niveau de la péninsule, il y a à peu près une vingtaine de bases avec une dizaine de nationalités différentes. Il y a beaucoup de bases chiliennes et argentines, hein, mais il y a aussi des bases russes, des bases chinoises, des bases bulgares. Et ce qu'on a cherché à comprendre, c'était leur objectif, parce que pour certains, il n'était pas du tout question de faire de la science. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a une espèce d'équilibre fragile mondial, une espèce de consensus qui est tout à fait remarquable autour de l'Antarctique pour en faire un continent de science et de paix. Et c'était quelque chose sur lequel on a voulu communiquer, et on était en contact avec 3000 établissements scolaires, une trentaine de mille d'élèves entre 6 ans et 22 ans. Et pour moi, ça me tenait vraiment à cœur au niveau de l'éducation de pouvoir fournir des informations et de répondre aux questions en temps réel. On avait un bateau qui était très très bien équipé, qui nous a permis d'envoyer des images, de répondre au jour le jour aux questions. Et parce que c'est vrai que ce continent fascine, mais on ne le connaît pas bien. Je veux dire, à part quelques privilégiés, des scientifiques, les gens qui ont la chance de pouvoir consacrer un peu de temps sur le terrain. Mais dans le fond, on ne sait pas. Il y a énormément de gens qui ne font pas la différence entre le pôle Nord et le pôle Sud. Et donc, voilà, on a essayé de donner des informations à ces jeunes pour qu'ils puissent partir sur une base un peu plus précise.
Eh bien, on va continuer notre exploration des pôles, une exploration par le son. C'est le reportage du jour. Dans l'étude des glaciers, une approche récente consiste à les écouter via une approche acoustique pour comprendre leur fonte, une méthode de plus en plus employée qui donne à entendre leur déplacement et leur dégel. Ce sont comme des champs glaciaires, et vous avez pu les découvrir, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, avec Ugo Nani, glaciologue qui explore depuis 10 ans l'évolution des glaciers sous la pression du climat. Depuis sa thèse, il étudie en particulier deux glaciers, un montagne, celui d'Argentière près de Chamonix, et un glacier polaire au Svalbard, celui de Kongsvagen. Alors avec ses collègues, il dit explorer l'inobservable grâce au son. Par des instruments issus de la sismologie, on peut mesurer les vibrations dans la glace à des centaines de mètres sous la surface et qui traduisent les écoulements, glissements, frottements au cœur du glacier. Ainsi, par l'écoute, en recomposant un paysage sonore interne, cette méthode peut sonder la structure et la dynamique des glaciers autrement que par l'observation classique ou satellite.
Ce qui m'a poussé à être glaciologue, c'est cette envie en fait, d'aller comprendre des territoires qui sont en train de changer à cause de nos activités. Et avec l'écoute des glaciers, ce que j'essaie de porter, c'est de porter en fait un peu le son des glaciers en dehors de la sphère académique. Parce que je pense que justement, en tendant l'oreille aux glaciers, en tendant l'oreille à leur chant, un peu comme on a pu tendre l'oreille aux oiseaux ou tendre l'oreille aux baleines, je pense que c'est aussi inviter à un autre rapport à l'environnement. Et c'est plutôt vraiment cette curiosité qui m'a poussé vers les zones polaires, parce que c'est peut-être plus qu'une exploration. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller dans ces endroits-là et de ramener un peu ces histoires, comme moi j'avais pu les lire quand j'étais enfant. Et en fait, toute ma thèse a porté sur le glacier d'Argentière, qui est le deuxième plus grand glacier de France métropolitaine, qui est juste à côté en fait du glacier de la mer de glace, qui lui s'écoule du massif du Mont Blanc. Et pendant ces travaux de thèse, en fait, pendant ces 3 ans de recherche qu'on a fait au laboratoire de glaciologie, c'était vraiment essayer de comprendre ce qui se passait sous le glacier d'Argentière, à peu près 200-300 mètres sous la surface du glacier.
C'est ce qu'on appelle la zone du bedrock, c'est le lit rocheux qu'on essayait d'étudier plus finement grâce à des capteurs de précision type sismomètre ou autres capteurs.
En fait, l'enjeu de ma thèse, les questions de recherche il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, c'était qu'est-ce qui se passe en fait sous le glacier, parce que le glacier, il se déplace soit par déformation sous son propre poids, donc c'est plusieurs centaines de mètres de glace qui se déforme un peu comme du miel ou du fromage, mais à partir du moment où il commence à fondre en surface et qu'il y a de l'eau qui arrive à pénétrer à la surface et aller à la base du glacier, donc sur son lit rocheux, en fait cette eau elle vient un peu acter comme un lubrifiant, elle vient faire glisser le glacier. Mais le problème c'est que c'est un peu difficile à observer et c'est des questions qu'on a encore beaucoup dans la communauté de recherche, c'est qu'est-ce qui se passe quand on augmente la fonte de surface? Est-ce que le glacier va beaucoup plus glisser? Est-ce qu'il va moins glisser? Ce qui est aussi possible, on l'observe dans certains cas. Et c'est vraiment un peu à cette question qu'on a essayé de répondre pendant ma thèse. Jusqu'alors, en fait, la manière dont c'était fait, c'était soit en faisant des trous, des forages, mais ça donne vraiment un aperçu très ponctuel. Et pendant ma thèse, avec le groupe de recherche, donc c'était une collaboration vraiment entre la partie glaciologie et sismologie, sur l'étude des vibrations, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas enregistrer ce qui se passe sous le glacier? Et comme ça, on pourrait utiliser les méthodes qui sont développées pour les volcans, pour les tremblements de terre, mais pour étudier ce qui se passe sous le glacier quand l'eau s'infiltre à des centaines de mètres de profondeur. Donc cet enregistrement, il a été réalisé en fait à 350 mètres de profondeur sous la surface d'un glacier arctique qui s'appelle le glacier du Kongsvegel, où j'ai travaillé avec une équipe de l'Université d'Oslo et de l'Institut polaire norvégien ces 3 dernières années. Ce glacier-là, il est situé à peu près à un peu moins de 1000 km du pôle Nord. Et ce qu'on entend, en fait, là, c'est, si on tend l'oreille, on va entendre un peu ces différentes composantes du signal sismique dont je parlais tout à l'heure. On entend des choses qui sont de très forte intensité, très rapides, qui sont l'ouverture de crevasses, les petits craques. Quand le glacier il se déplace, il vient faire plein de petits craques. Ensuite, on a quelque chose qui est basse fréquence, une sorte de son très très sourd qui ressemble un peu à un grondement, et ça c'est l'eau en fait qui vient résonner dans l'ensemble du glacier, et donc là on peut entendre en fait comme si on était un peu dans une grotte. Et derrière on a des sortes de nappes vibratoires qui sont soit en fait quand on a des séracs, des icebergs qui se détachent, ça vient résonner dans tout le glacier, et on va aussi avoir en fait des moments où le glacier il vient faire certains sons qu'on comprend pas tout de suite, mais là, en l'occurrence pour ce glacier-là, qui sont liés à la propagation de ces fractures en profondeur. Et en fait, ce qu'on vient étudier, nous, là, c'est la fonte, mais c'est aussi, en fait, c'est les autres conséquences de cette fonte. Quoi. C'est vraiment cette question, qu'est-ce qui se passe quand le glacier fond au-delà de sa fonte? Qu'est-ce qui se passe? En particulier, est-ce que ce glacier peut devenir instable? Et sur le glacier du Mont Wegen, en fait, c'est vraiment l'étude qu'on a conduite avec les différentes équipes. C'est de se dire, ben, le glacier est en train de fondre. En fait, qu'est-ce que cette eau et qu'est-ce que ce changement de géométrie du glacier fait sur la stabilité du glacier? Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que potentiellement, en fait, le fait qu'on fonde beaucoup plus haut sur le glacier et qu'en même temps, le glacier devient de plus en plus raide parce qu'il fond, eh bien, ça, en fait, ça crée un état de potentielle instabilité où le glacier pourrait s'effondrer. Alors, on parle d'un glacier qui fait presque 20 km de long, 5 km de large, et il pourrait, en fait, accélérer très rapidement et se jeter dans le fjord qui est en contrebas, quoi. Et ce qu'on étudie, en fait, sur ce glacier-là, c'est à la fois, bien sûr, le comportement de ce glacier. Mais encore une fois, le glacier de Skonsvegen au Svalbard, c'est un peu un laboratoire, pareil, comme le glacier d'Argentière en France. Et ce qu'on étudie, c'est cet emballement, en fait, de la dynamique du glacier. On l'étudie aussi pour comprendre ce qui se peut se passer dans d'autres massifs glaciaires où on a un peu moins d'observations.
Ce qui est fascinant dans ce que vous dites et dans ce qu'on entend, c'est qu'on arrive à recréer un paysage sonore in situ, dans ces endroits complètement inaccessibles, intangibles, où il y a beaucoup d'imaginaire aussi. Là, on entendait ce que vous disiez, donc l'eau ruisselée avec ce grondement, mais aussi des crépitements, une autre nappe un peu plus diffuse. Donc, c'est fascinant de se dire qu'on peut avoir, par simplement l'écoute, la structure, la dynamique des glaciers.
Oui, ça vient vraiment, le besoin un peu d'avoir cette méthode un peu différente, ça vient vraiment du fait que, à un moment, l'observation visuelle, ou alors le modèle, il arrive un peu à face à un mur quand on peut pas observer ce qui se passe sous le glacier ou à l'intérieur du glacier, en fait. Et plus personnellement, cette écoute, je trouve qu'elle donne un autre lien au glacier, quoi. Alors c'est pas un sentiment comme si c'était un être vivant, mais comme vous dites, vraiment un paysage sonore, et ça vient donner une identité qui est un peu différente que simplement, ou traditionnellement, ce qu'on peut observer visuellement.
Merci Céline Lauzen. Nos reportages loin du studio pour se frotter à la science telle qu'elle se fabrique au quotidien, c'est notre collection La Science au Labo sur votre appli préférée, l'appli Radio France bien sûr. Laurence de la Ferrière, votre réaction à l'écoute de ces chants des glaciers?
Eh bien, ça m'a rappelé en fait... Quand je parlais des sens supplémentaires qu'on développe pour trouver sa place dans un endroit qui ne veut pas de vous, en fait, à un moment donné, vous apprenez à entendre la vie qui se passe sous vos pieds et la manière dont vous pouvez fonctionner avec en fonction de ces bruits. Il y a aussi le bruit du vent contre vous, mais la glace sous vous, elle est vivante. Et en fait, elle vous donne des informations que vous intégrez dans un fonctionnement qui n'est plus tellement humain, mais très instinctif, et qui va alimenter une sorte de disque dur qui fait que, à un moment donné, vous trouvez un autre équilibre et que vous créez d'autres repères pour arriver à vous trouver en sécurité et continuer à fonctionner dans cet environnement. Mais c'est ce que ce scientifique vient de parler, c'est quelque chose qu'on ressent profondément et je trouve qu'il en parle d'une manière tout à fait magnifique.
On entendait parler également dans ce reportage d'un emballement, Christophe Leroy dos Santos, l'Antarctique face au changement climatique. Quels sont les signes inquiétants qui nous viennent récemment et auxquels les scientifiques sont obligés de tendre l'oreille?
Effectivement, l'Antarctique, c'est un très très gros enjeu. On va pas se dire pourquoi un très gros enjeu, parce qu'en fait l'Arctique, on sait déjà que ça fond depuis 20 ans, le Groenland en gros, la calotte, on est sûr d'une fonte, c'est-à-dire il y a moins d'accumulation que de pertes tous les ans. Et puis bon, la banquise, n'en parlons pas, on le sait, aucun modèle n'avait prédit des débâcles si importantes, enfin des débâcles, des fontes et des reformations si maigres tous les ans, bref. Alors qu'en Antarctique, voilà, c'est un plus grand continent, moins bien monitoré, c'est quand même 7 fois la taille de l'Australie, pour en fait peu de points de mesure relativement à sa taille. Donc c'est quand même un enjeu de vraiment estimer ce qui s'y passe, surtout en Antarctique de l'Est, donc toute la partie en fait vraiment qui avec les 3 km de calotte sur le continent, qui en fait correspond à 50, 60, 70 mètres d'augmentation du niveau des mers, potentiellement. Donc voilà, il y a un très 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 gros enjeu là-dessus. Par exemple, la partie péninsule, donc celle qui est proche de la Terre de Feu, Argentine, Chili, celle-là, on le sait qu'elle est soumise, disons qu'elle se réchauffe, qu'il y a de la perte de la fonte de glacier à cet endroit-là, on en est certain. Il y a plein de phénomènes, les rivières atmosphériques, etc., qui ont tendance à amplifier les fontes. Il y a la notion de la banquise, c'est un autre truc aussi. On n'arrive pas encore à. Il y a des années où elle est super, super importante, des années où elle est très faible, donc on a du mal à vraiment comprendre ce signal-là. Et vraiment, le gros enjeu, c'est sur le continent, la différence entre la perte et l'accumulation, donc ce qu'on appelle le bilan de masse de l'Antarctique de l'Est. Et là, c'est compliqué. On étudie. C'est pour ça que je travaille. mais par contre, c'est vrai qu'il y a des études récentes qui montrent, je pense notamment à Casado et al. 2022, je crois, un beau papier dans un Nature, je sais plus lequel, qui a montré que en faisant une statistique sur l'ensemble des carottes disponibles dans une base de données qui s'appelle IsoTouquet, qui avait un réchauffement observé en Antarctique sur les 100 dernières années. Donc, ce qui était déjà un gros résultat, en fait.
Oui, puis là, récemment, toujours dans Nature, une étude publiée le 20 août dernier, hein, sur des chercheurs qui alertent sur le fait que l'Antarctique est soumis à une série de changements abrupts qui se renforcent.
C'est très probable. D'ailleurs, un de mes sujets d'études sur les dernières années, c'était le. Mais il y en a qui l'étudient plus précisément que ça encore. C'est l'augmentation en fréquence et en intensité de ce qu'on appelle les rivières atmosphériques. Donc, voilà, ce qui frappe la péninsule. Ce qui frappe beaucoup la péninsule, ce qui fait que la péninsule fond est très touchée par le réchauffement climatique. Mais on a envie de voir quels vont être les impacts de ces événements en Antarctique, et principalement dans le centre de l'Antarctique, comme je disais, sur l'Antarctique de l'Est. Et par exemple, il est quand même arrivé, je me souviens plus, mais sur les 3-4 dernières années, là, il y a eu une rivière atmosphérique qui a été jusqu'à Concordia, donc au centre de l'Antarctique, à 3200 mètres d'altitude, et il a fait pendant l'été, je crois qu'on a frôlé les 0 degrés quand même, ce qui est incroyable. Normalement, l'été, il fait moins 20, moins 25 degrés. Et pendant une journée, 24 heures, on a frôlé les 0 degrés. Je crois que c'était moins 5. Donc, ce qui est un record incroyable. Enfin, on est quand même sur une différence de 20 degrés par rapport à la moyenne. Donc, c'est pas les 3, 4. Voilà. Donc, il y a un potentiel dérèglement très important à venir en Antarctique.
Avec cette étude qui dit en effet toujours, qui va dans le sens de ce que vous racontez, que la calotte glaciaire ouest antarctique a déjà été identifiée par les scientifiques comme exposée au risque d'un basculement irréversible en raison de la hausse des températures.
C'est ça.
Voilà pour le mot de la fin. Il est malheureusement peu joyeux, mais merci. Merci à vous deux. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo. Laurence de la Ferrière, je rappelle que votre ouvrage Antarctique au cœur du continent blanc est paru aux éditions Gallimard en 2020, qu'il est disponible en librairie ou en médiathèque. Merci Christophe Leroy Dos Santos, merci Laurence de la Ferrière. Tout de suite, on retrouve la chronique avec science et on plonge avec les méduses, ou plus exactement, on dérive avec elles.
Quelle est la stratégie gagnante des méduses pour coloniser l'océan ? Je ne vais pas vous parler de l'augmentation ou non du nombre de méduses sur nos plages, ni de la meilleure façon d'atténuer la douleur d'une piqûre, et encore moins d'une hypothétique et pour l'instant non avérée gélification de l'océan. Non, on s'intéresse aujourd'hui à leur grande diversité. Les méduses, ou plutôt le groupe des médusoaires, en bon langage scientifique, sont apparues il y a un demi-milliard d'années. Elles n'ont pas de cerveau, pourtant elles prolifèrent et comptent actuellement environ 4000 espèces. Toutes les formes et toutes les tailles existent dans les mers chaudes comme froides, et pour 90% des espèces, cette masse gélatineuse qui bouge au gré des courants et que l'on appelle communément méduse n'est en réalité qu'une étape de leur cycle de vie. Lucas Leclerc est chercheur CNRS à l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer.
La méduse classique a un cycle de vie qui n'inclut pas seulement la forme méduse qui nage, mais aussi une forme benthique, donc qui vit sur le fond des mers et qui s'appelle le polype. Et donc en fait, c'est le polype qui va bourgeonner des méduses. Lui, il vit au fond et il ne fait que la reproduction asexuée. Alors que la méduse, elle, qui nage, va réaliser la reproduction sexuée, produire des gamètes, et ensuite ces gamètes vont être fécondées et produire de nouveau un polype. Donc on a un cycle de vie qui alterne entre une forme nageuse et une forme fixée au fond. Donc ça, c'est le cycle de vie classique chez les méduses. Et on va avoir quelques espèces qui vont ne plus avoir besoin de s'attacher au fond de la mer. Et là, on va avoir une très grande diversité de cycles. Alors, certaines ont perdu le polype, d'autres ont des polypes qui peuvent nager, d'autres ont des polypes qui peuvent parasiter d'autres espèces, notamment de méduses. Donc, il y a une très grande diversité de types de cycles qui ne sont que dans la colonne d'eau, qu'on appelle holoplanctonique.
Holoplanctonique, ça veut dire qu'elles passent toute leur vie à dériver avec les courants, comme les planctons, sans jamais être fixées quelque part. Ce sont ces méduses qui nous intéressent aujourd'hui. Elles sont beaucoup plus rares en nombre d'espèces que les méduses classiques et sont donc beaucoup moins étudiées. Mais où vivent-elles? Leur faible diversité se traduit-elle aussi par une faible abondance? Ont-elles trouvé refuge dans des milieux spécifiques? Une étude parue dans PNAS a voulu répondre à ces questions et pour cela, il faut aller à la pêche à la méduse. Ces travaux ont été rendus possibles par la mission Tara Océan qui a parcouru le globe pour échantillonner la vie marine. Pendant 4 ans, entre 2009 et 2013, les scientifiques ont moissonné l'océan pour récolter l'ADN qui s'y trouve. Grâce à cela, on peut identifier quel animal est passé par là, déterminer les espèces et comparer leurs histoires évolutives. Résultat, les méduses qui vivent uniquement au gré des courants, sans jamais se poser au fond, ces espèces holoplanctoniques sont présentes en bien plus grand nombre que les méduses classiques et partout. Abandonner la fixation leur a permis de conquérir l'océan.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu démontrer que chaque perte du stade benthique a entraîné un changement de la distribution des espèces qui vivent maintenant au large, alors que les espèces qui ont un polype sont inféodées au milieu côtier. Et on a pu aussi se rendre compte que ces espèces-là avaient des abondances très importantes, au moins pour certaines, beaucoup plus importantes que les espèces alternant entre une phase benthique et une phase méduse. Et ça, en fait, ça n'avait jamais été démontré, puisqu'en fait, on n'avait jamais couplé des analyses évolutives avec des analyses environnementales. Surtout standardisé à l'échelle globale. On peut l'interpréter de la façon suivante, c'est qu'il y a un avantage et un intérêt évolutif à perdre le stade fixé. Et en fait, on a de très nombreux groupes de méduses qui ont en fait fait ces transitions depuis un stade benthique pélagique vers un cycle holoplanctonique. On a aussi pu démontrer que les espèces holoplanctoniques ont tendance à être plus flexibles dans leurs interactions avec les autres organismes et donc plus adaptables en fait.
Si vous lancez un filet n'importe où dans l'océan, vous avez donc bien plus de chances de pêcher une espèce holoplanctonique qu'une méduse alternant entre vie libre et vie fixée, alors qu'elle ne représente que 300 espèces. Il existe tout de même une exception, l'Arctique, seul territoire où ces espèces uniquement nageuses ne sont pas dominantes. Hormis ce cas, elles ont conquis tout l'océan sans que l'on s'en aperçoive jusqu'ici. Reste désormais à les suivre dans le temps. Cette étude n'offre qu'une photographie à un instant T, mais on ignore encore si ces espèces se multiplient particulièrement et si elles sauront mieux s'adapter que les méduses classiques au changement climatique.
Merci Alexandra pour votre chronique. Elle est à retrouver en podcast sur l'appli Radio France. Et grande nouveauté de cette rentrée à France Culture, le fil Culture G. Chaque jour, c'est un coup de projecteur qui éclaire notre actualité, philo, éco, histoire, numérique, pop culture, gastronomie et science, bien sûr. En 3 minutes 30, du lundi au dimanche, les meilleurs experts tirent leur fil d'Ariane pour mettre notre monde en perspective, un gai savoir, sous toutes les coutures. Et tout de suite, le fil science par Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle qui nous propose chaque mercredi l'Odyssée des humains. Aujourd'hui, à la préhistoire, les enfants allaient-ils à l'école ?
À la préhistoire, les enfants allaient-ils à l'école ? Vous ne vous êtes peut-être jamais posé cette question, mais vous allez voir que c'est une question importante. Les enfants préhistoriques apprenaient vraisemblablement auprès de leurs congénères. C'est comme cela qu'on a accumulé les savoirs au fil des générations. Pas de banc d'école, pas de professeur qui enseigne à une poignée de jeunes homo habilis, homo erectus ou homo sapiens turbulents. L'école à la préhistoire, c'est la transmission des savoirs au sein du groupe familial élargi. Et pas seulement les parents, les frères et sœurs, mais tous les membres du groupe. Les plus jeunes sont formés à conserver les connaissances accumulées par leurs prédécesseurs. Construction d'un feu, confection d'outils, technique de chasse, mais surtout, on apprend ce qu'il faut ou ne faut pas manger. Et ces apprentissages sont rapidement partagés. Très vite, les progrès réalisés par les humains se retrouvent dans toutes les régions qu'ils peuplent, ce qui prouve bien qu'ils partagent leurs connaissances. L'aiguille à chat, indispensable pour la couture, est un bon exemple. Les plus anciennes sont apparues il y a environ 20 000 ans et se répandent rapidement. On en retrouve dans toute l'Europe. Alors, depuis quand cette transmission des savoirs existe, c'est difficile à connaître. Mais c'est certain qu'elle se pratique depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Vu la complexité des outils et des techniques, par exemple de chasse, que les humains ont su déployer. D'ailleurs, cette question de l'apprentissage du savoir-faire des humains est très liée à celle du langage. En fait, vu la complexification des comportements humains au fil du temps et ce qu'il fallait apprendre, on est en droit de penser que le langage a facilité ces apprentissages complexes. Mais alors, la bonne nouvelle pour nous, c'est que les enfants humains sont particulièrement équipés pour cet apprentissage. Le bébé humain naît plus petit et plus immature que d'autres grands singes. Les os de son crâne ne sont pas soudés et ses sens sont moins développés. Il ne peut pas, par exemple, voir clairement son entourage, il ne peut pas contrôler ses bras et ses jambes. D'ailleurs, les nouveau-nés humains sont particulièrement fragiles et demandent une attention constante des parents. Jusqu'à l'apparition de la médecine moderne, environ un enfant sur cinq décède avant un an. Mais vous vous rendez compte, à la naissance, le cerveau du bébé humain n'est que de 25% la taille du cerveau adulte, contre près du double chez les chimpanzés au même âge. Et c'est bien parce qu'il est plus immature, moins développé, qu'il est plus propice à accumuler de l'apprentissage. Et en plus, sa croissance est plus longue. Il faudra une vingtaine d'années pour avoir un cerveau adulte, contre moins de 10 ans chez les chimpanzés. L'enfant humain atteint un plateau de croissance entre 6 et 10 ans avant que ne débute la puberté. Cette puberté est un pic de croissance que l'on ne retrouve pas chez les autres espèces de grands singes. Alors le rôle physiologique de l'adolescence, cette spécificité humaine, est encore discuté. Il semblerait qu'elle permette un processus de maturation du cerveau qui n'est pas possible à d'autres phases de la vie. Bref. Les humains mettent beaucoup plus d'années pour devenir adultes que les autres grands singes et durant cette période, le cerveau se construit en emmagasinant plein de savoirs. C'est le temps fort de l'apprentissage, celui de l'école. Alors, vive l'école !
Merci Evelyne Heyer pour ce fil science, merci à vous pour votre écoute et merci à toute l'équipe de la science CQFD. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.